Et cette compagnie des auteurs poursuit son chemin dans les terres de Louis Aragon. Dernière station aujourd'hui en direct du salon Livre Paris avec Daniel Bougnot.
Je tiens le roman pour une très grande invention de l'homme, pour une invention qui est loin d'avoir fait entièrement son jeu. Et je pense que le roman ressemble plus qu'à quoi que ce soit à l'hypothèse scientifique. Le roman est une hypothèse sur le monde, une hypothèse sur des hommes donnés, sur une société donnée. Et cette hypothèse, elle peut être abandonnée ou gardée, suivant le bonheur de l'auteur, mais elle représente un moyen de connaissance. Si elle est juste, cette hypothèse, elle constitue un moyen de connaissance de la réalité très supérieur au travail de compilation qu'on appelle l'histoire.
Le roman est une hypothèse scientifique, dit Aragon dans cet entretien de 1971. C'est comme ça, Daniel Bougnot, qu'il concevait ses romans,
oui,
comme des hypothèses scientifiques.
Il a toujours insisté sur cette idée que le roman est une machine à connaître. Il a une phrase très forte sur le rapport du roman avec la poésie. Il a dit que la poésie était au roman ce que les mathématiques étaient à la physique. Et on comprend bien que la poésie, c'est un cristal, comme les mathématiques, mais que paradoxalement, ce cristal nous aide à construire les équations du monde physique. Et donc, le passage de la physique, de la mathématique au physique, c'est le passage des maths au roman, de la poésie au roman. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier
jusqu'au concret.
Voilà, des combinaisons mentales, des rimes, des structures verbales et logiques, jusqu'à cette formidable machine de connaissance qu'est le roman. Mais quand il écrit La Semaine Sainte, par exemple, il fait une très provocante préface pour dire « Ceci n'est pas un roman historique », alors que tout lecteur de La Semaine Sainte, évidemment, pense que c'est un roman historique.
On va parler un peu plus longuement de La Semaine Sainte, justement, très bientôt, mais quelles étaient les hypothèses scientifiques que testait, selon vous, Aragon dans ses romans, justement ?
Ben, on peut penser bien sûr au marxisme et au devenir révolutionnaire, mais c'est pas tellement cela qu'il fixe dans le monde réel. C'est plutôt des diagnostics sur les rapports de classe et sur l'inconscient social par lequel ces classes s'acheminent vers leur propre destruction. Aragon appartient à une famille peut-être bourgeoisie déclassée, décadente. Et il a lui-même assisté à cette comédie sociale dans sa famille par son père aussi qui était un homme politique très connu sous la Troisième République. Il a vu la comédie du pouvoir. Et donc Aragon est très sensibilisé à tous ces jeux de pouvoir et de contre-pouvoir qui font une société qui néanmoins ne règle rien et qui s'achemine en cahotant vers son propre abîme ou son propre bordel. Et donc la démonstration à faire, c'est celle de cette impensée de l'histoire par les hommes qui font l'histoire sans savoir qu'ils le font, qu'ils la font. Et donc, je crois qu'Aragon...
Il y a quelque chose de presque philosophique, vous êtes philosophe, est-ce que vous le lisez aussi comme ça ?
Il y a un inconscient des acteurs historiques, et je pense que le roman est un peu le cabinet d'analyse de cet inconscient-là. C'est-à-dire que par le roman, nous comprenons quelles erreurs, bon, rétrospectivement, bien sûr, et quand il est trop tard, le roman vient trop tard. Mais enfin, le roman nous explique, pour moi, le roman m'explique la guerre, par exemple. Mais mes parents, mon grand-père ne me parlaient pas de la guerre qu'ils avaient faite. Et c'est par Aragon que je traite un peu comme mon grand-père, parce que lui me raconte la guerre de 14 ou la guerre de 40 par laquelle mon père est passé. Donc il y a dans le roman pour Aragon aussi ce passage de témoin, c'est-à-dire que les générations à travers le roman se parlent et qu'encore aujourd'hui, je dirais qu'un grand roman d'Aragon, comme Les Voyageurs ou comme Aurélien, peut infiniment nous parler par où sont passés nos parents, nos grands-parents, ou bien par où passe tout couple amoureux qui se cherche, qui hésite, qui se pose plein de questions, et c'est le roman d'Aurélien. Mmh. Donc je dirais que ce sont des outils de connaissance très précieux, très précis.
Alors justement, j'aimerais vous entendre sur un livre en particulier qui est le plus grand livre, alors grand entendu au sens de nombre de pages d'Aragon, c'est Les Communistes. Ah. Est-ce que Les Communistes, c'est un roman historique ? Après, on parlera de La Semaine Sainte, dont il a dit effectivement que ça n'était pas un roman historique, mais Les Communistes, qu'est-ce que c'est ?
Écoutez, c'est pas mon préféré, donc je n'en parlerai peut-être pas tellement, mais parce que son titre, en effet, est très dissuasif, on ne lit plus les communistes. Alors, je voudrais quand même dire...
Quoi, c'est trop provocateur comme titre ?
Ah, le titre est un buvable aujourd'hui. Bon, je pense que c'est un titre qui fait fuir.
Alors qu'à l'époque, ça faisait
à l'époque, vendre, on peut dire non. À l'époque, on peut dire qu'Aragon a écrit les communistes pour, se faire bien voir comme militant auprès de certaines personnes du Parti communiste. C'est pas un ouvrage de commande du tout. Aragon n'a rien écrit par commande. Mais c'est sûrement un ouvrage qui a été écrit dans le contre-coup de la résistance au sortir de la guerre pour... peut-être se faire pardonner Aurélien, peut-être, je ne sais pas. En tout cas,
c'est triste d'avoir à se faire pardonner Aurélien.
Bien sûr. Mais enfin, les conditions de la guerre froide et de l'après-guerre étaient terribles, n'est-ce pas ? On n'imagine plus. On en est sorti de ce monde-là, heureusement. Et Aragon y était intimement mêlé et en était un des acteurs. Alors, les communistes, c'était aussi pour expliquer la politique du parti dans les années tellement noires et décriées du pacte germano-soviétique. C'était donc pour dire...
C'est le service après-vente aussi du parti ?
En tout cas, pour dire que les communistes n'avaient pas été des lâches, mais qu'ils avaient tenu bon et qu'il y avait eu un drame de ce côté-là, et un drame que certains avaient porté très loin et très haut. Et donc, c'est aussi l'exploration du drame qu'ont vécu, c'est vrai, du drame affreux, terrible, parce que le pacte, c'est une histoire invraisemblable, n'est-ce pas ? Ce sont les plus farouches défenseurs les plus farouches opposants à Hitler qui vont se trouver du jour au lendemain les complices objectifs d'Hitler. N'est-ce pas ? Donc c'est insupportable pour un militant communiste. Ils sont pris complètement à contre-pied et à revers. Donc Aragon a vécu cela en première ligne, évidemment. Ça a été un épisode particulièrement tragique. Et puis après, il y a eu la drôle de guerre, il y a eu la vraie guerre et pas drôle du tout, et il y a eu Dunkerque. Et les communistes s'arrêtent sur Dunkerque. Aragon voulait poursuivre au-delà, et puis, après 1000 pages, il pose la plume sur Dunkerque, qui est la fin de son roman. Et c'est une fin absolument tragique. Il faut lire les communistes, au moins pour leur seconde partie, c'est-à-dire le spectacle inouï de la débandade de l'armée française. Je disais que tout à l'heure qu'Aragon a pris pour sujet la débandade. Là, elle est historique, elle est flagrante. C'est celle de toute une armée qui est prise à revers, qui n'y comprend rien et qui est basculée cul par-dessus tête jusque dans le Périgord où Aragon est démobilisé. Mais enfin, il est passé par Dunkerque, il a été réexpédié en Angleterre, il est revenu par Brest, il a fait toute la campagne de France, il en a bavé, il le raconte dans Les communistes.
Mais vous dites que vous avez lu aussi les romans d'Aragon comme des livres qui vous ont appris la guerre. Est-ce que lui-même l'a conçu, ce livre, Les communistes, comme ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est documenté au point d'écrire quelque chose qui soit véridiquement vérifiable, qui soit historiquement vérifiable ?
Ah oui, Bernard Leyot a fait l'édition en Pléiade des communistes. Je n'ai pas fait moi-même tous les romans d'Aragon en Pléiade. Bernard Leyot a eu la gentillesse de se charger de la lourde tâche des communistes. Il a donc été à Vincennes, au fort militaire, pour retrouver les archives. On suit jour par jour, n'est-ce pas, la trace des soldats de l'engagement jusqu'à la défaite. Et Aragon dit des communistes, j'ai la prétention, il dit ça dans une postface, j'ai la prétention de dire que les historiens de l'avenir devront en tenir compte. C'est-à-dire que je dis dans ce livre des choses qui sont non seulement documentées et vérifiées, mais dont on ne parle pas et dont on parlera parce que j'en ai parlé et on le vérifiera et on verra que j'avais dit la vérité sur cet engagement. Cet engagement de l'armée, sur ses péripéties militaires. Donc Aragon a une connaissance de première main et une connaissance aussi d'archives, de documentation, parce qu'il était... On n'est pas partout quand on est à la guerre, et même on est nulle part. Parce qu'à la guerre, on ne voit rien. Et c'est aussi un des sujets des communistes, c'est que le troufion, il a l'œil fixé sur la tourelle du char qui est devant lui. Et il ne voit que la plaque d'immatriculation de la voiture militaire ou du char qui est devant lui. Et donc, c'est le chaos, c'est Fabrice à Waterloo, ils n'y comprennent rien. Et les communistes nous montrent, nous peignent merveilleusement, si j'ose dire, c'est pas merveilleux du tout, mais nous peignent de façon atroce et splendide ce bordel, nous parlions de cela tout à l'heure, qu'a été la guerre de 40 pour ceux qui l'ont faite.
Mais du coup, pour le lire, c'est quand même bien d'avoir un livre d'histoire pas trop
non, loin. Non, je pense que les communistes sont auto-développants, auto-explicatifs, qu'on peut le lire comme une formidable histoire française.
Petite
1815 par le groupe belge Les Hoquets, qui nous conduisent bien entendu à un autre roman à caractère historique, Daniel Bougnou d'Aragon, mais cette fois dans un style totalement différent. Il s'agit de La Semaine Sainte, on commençait à l'évoquer, qui relate la semaine du 19 au 26 mars 1815, c'est-à-dire les 100 jours. Alors, historique, pas historique, donc on a dit non, pas historique, mais pour quelle raison ?
Ah non, lui veut se démarquer de la vérité historique parce qu'il ne veut pas avoir sur lui le regard surplombant et censurant des historiens. Il veut garder sa liberté de romancier. Et donc la vérité historique l'embêterait du strict point de vue de la composition. Donc il veut garder les coups des franches. Il a une phrase plus tard en disant « Il y a une vérité historique, le chien danse et qu'il n'y a pas de vérité romanesque. » Voilà. Et voilà. Et lui, il est du côté de la vérité romanesque. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la fiction, n'est-ce pas ? Pas du tout. C'est un roman formidablement documenté, La Semaine Sainte. Mais il ne veut tomber ni dans l'Alexandre Dumas, c'est-à-dire faire du roman de cape et d'épée ou à décor, ni surtout dans le roman orthodoxe dont les historiens auront à juger. Il veut garder sa liberté de romancier.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans ce livre ?
Ah, il est magnifique. C'est sûrement un des chefs-d'œuvre d'Aragon. Si vous n'avez pas lu La Semaine Sainte à partir de cette émission, précipitez-vous sur le volume qui est en folio, bien sûr, et encore mieux dans la Pléiade, parce qu'il faut des notes pour lire La Semaine Sainte. C'est un roman, je le disais, formidablement documenté. C'est un roman des bandades. C'est le roman inverse des communistes, puisque dans les communistes, l'armée française part des Flandres et des boules jusqu'au Périgord. Dans La Semaine Sainte, on part de Paris, c'est la maison du roi, Louis XVIII, et on va vers les Flandres.
Alors d'ailleurs, pourquoi il s'est mis de ce côté-là ? Pourquoi du côté de Louis XVIII et pas du côté de Napoléon ?
Bonne question, parce que Géricault, son personnage, qui est un peu son...
Alors, le peintre,
pas son
Géricault.
Porte-parole, le peintre Géricault. Mais La Semaine Sainte, ça commence dans l'atmosphère bitumineuse, soit d'une toile très très abîmée par le noir de fumée, soit d'une chambrée d'officier. Alors on mentionne le petit Alfred, il faut comprendre que c'est Alfred de Vigny, on mentionne Théodore, il faut comprendre que c'est Géricault. C'est-à-dire que de cette toile noire vont surgir des figures peu à peu s'éclairant avec leurs cimiers, leurs casques, leurs uniformes rutilants, leurs épées, leurs éperons, etc. Et c'est un roman sur le cheval, parce que tous ces gens-là vont partir à cheval. C'est un roman sur la perte des illusions. C'est un roman sur la défaite, la profonde défaite morale de ces hommes qui suivent un roi podagre avec cette chevaucheuse, cette chevauchée dans la boue, dans la nuit. Et vers où vont-ils, n'est-ce pas, sinon l'exil? Et ils quittent une France. Alors, certains hommes étaient d'anciens régimes, sont passés par la Révolution, le Directoire, l'Empire, la Restauration, et à nouveau l'Empire revient. Où est la loi? Que dit l'histoire, le sens de l'histoire? Qui l'écrit? Que fait-il? L'histoire bredouille, l'histoire patine. Aragon écrit sur cette formidable incertitude des hommes devant l'abîme ouvert devant eux d'une histoire qui n'est écrite nulle part. Et donc La Semaine Sainte est un roman de désorientation. Et c'est le roman sur la question comment s'orienter dans l'histoire, quel choix faire. Géricault fait le mauvais choix parce qu'il porte un peu par hasard l'uniforme des mousquetaires gris. Il suit par la logique de l'uniforme, il accompagne, après avoir dit qu'il restera à Paris, puis non, il part parce qu'il aime bien aussi caracoler à cheval. Il part suivre le roi dans cette chevauchée sans honneur.
Donc Géricault, le peintre du radeau de la Méduse.
Voilà.
J'aimerais que vous nous parliez un petit peu...
C'est un roman sur la peinture aussi.
En quoi est-ce que c'est un roman extrêmement visuel, extrêmement pictural, et en quoi est-ce que finalement il a presque le grain d'un tableau de Géricault?
Oui, il y a de merveilleuses évocations de tableaux qu'on appelle des ekphrasis, n'est-ce pas, dans le langage pictural. Il y a des tableaux notamment évoqués comme le cuirassier blessé, c'est-à-dire pas du tout des tableaux héroïques, mais des tableaux, le radeau de la Méduse n'a rien d'héroïque, au contraire, n'est-ce pas? C'est un tableau presque d'anthropophagie, où les hommes, les corps sont à l'abandon et sont mourants. Et le chevalier, le cuirassé blessé, c'est aussi un homme qui quitte le feu. C'est donc un tableau de retraite, un tableau de défaite. Et au fond, Aragon peint sa propre défaite de militant et de son espoir révolutionnaire dans La Semaine Sainte. Sauf qu'à la fin, il va dire, après ces 8 jours de pluie, d'incertitude...
Alors il pleut tout le temps dans ce roman, c'est incroyable.
Il pleut beaucoup.
Vous prenez n'importe quelle page, il pleut toujours.
Et le soleil se lève à la toute dernière page. Donc on peut y voir un happy end très brumeux, n'est-ce pas, très en filigrane.
Ça commence par le lever du soleil
dans
une caserne.
Chambre.
Il aime bien quand même décrire la chambrée des officiers.
Oui, il y a peut-être une homosexualité latente dans tous ces hommes superbement harnachés, montant à cheval,
ils ont tous des
vivant
cils comme
entre
ça,
eux.
Très, très longs.
Ah, ils sont superbes. Il n'y a pas de femmes dans La Semaine Sainte, sauf à la cantonade, dans le rêve des hommes endormis, qui parfois dorment aux étapes et parfois dans des conditions précaires. Donc c'est un roman formidable sur la condition du soldat qu'on balade, et, entendons du militant, n'est-ce pas, qu'on balade, qu'on égare, qu'on jette dans les fossés. Enfin, c'est un roman poignant parce que c'est le roman du combat inutile. Et sauf que Géricault, c'est un peintre, donc son vrai combat à lui, il se passera pas à cheval, il se passera pas sur les champs de bataille, il se passera devant son chevalet. Mais on sait qu'il aura un sort tragique, Géricault, qu'il mourra assez jeune de la gangrène. Cela aussi est dit en filigrane par ce roman bitumineux.
Et on parlait juste avant des communistes, et Aragon a toujours souligné la continuité entre ces deux livres. Ça paraît, au lecteur non averti, presque complètement faux. Enfin, ça paraît très étonnant en tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a de commun alors ?
Ça se passe sur les mêmes routes, simplement dans un sens, puis ensuite dans l'autre. Ça se passe, ce sont les mêmes routes de la défaite de la drôle de guerre, enfin plutôt de la défaite de l'armée française, l'étrange défaite. Et puis après, la route de l'Exode, enfin après, c'est très avant, c'est en 1815, mais ce sont les mêmes routes. Et Aragon dit que un décor parfois passe d'un roman dans l'autre, n'est-ce pas ? Un fort militaire se trouve à la fois dans la... Enfin, il écrit dans la semaine sainte, j'ai déjà parlé de ce fort parce que j'en ai parlé dans les communistes, n'est-ce pas ? Et j'y suis allé en tant que soldat.
Là, on retrouve Balzac un petit peu, Là, on retrouve peut-être Balzac et les personnages récurrents.
Oui, parce qu'il y a des ancrages très réels dans ce paysage de guerre, ce paysage mille fois disputé entre les Allemands, les Français, les troupes d'invasion, la Révolution française, les Prussiens, etc. Donc Aragon est très... Aragon qui a l'âme militaire, qui a quand même chevillé en lui le souci de dire le combat des hommes dans l'armée. Bon, alors je crois qu'il est à l'aise chez lui, il est chez lui pleinement dans la défaite française de 40 et dans la défaite morale ou politique de la maison du roi en 1815. Et puis il y a à la cantonade des évocations formidables. Le duc de Richelieu, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, ce sont des personnes qui émergent d'un seul coup de la toile, comme ça, de Géricault. Et il y a des visions assez prodigieuses de destin individuel. Ce que, par exemple, le duc de Richelieu a fait en Orient. Il y a des descriptions très, à Sébastopol, des descriptions très étonnantes, très intéressantes. Donc des échappées belles. Même il va décrire la grève des mineurs en 19 quand il occupe la Sarre avec les troupes d'occupation françaises. Donc il y a des flash forward et des flashbacks. Voilà. Il saute les périodes et les lieux l'appellent à parler de plusieurs époques à la fois.
J'aimerais qu'on termine sur un dernier thème rapidement et que vous souligniez dans votre édition de la Pléiade, qu'on s'attend pas forcément à trouver chez Aragon, c'est la question de l'altruisme. Vous dites que pour comprendre Aragon, il faut comprendre l'altruisme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce mot chez lui ?
Je crois que je dois dire plus précisément qu'il faut un formidable altruisme pour écrire de pareils romans. Parce que le roman consiste à se mettre dans la peau de personnages qui ne sont pas forcément vos amis. Quand Aragon décrit un aristocrate d'Ancien Régime, ce n'est pas un compagnon d'armes, évidemment, c'est un adversaire politique.
Est-ce que ce n'est pas le principe du romancier, ça ?
Précisément, mais il faut avoir cette capacité d'empathie, cette capacité, ce don d'incarnation. Alors, Aragon l'avait au plus haut point. Et je suis très étonné par ces écarts, y compris pour décrire certaines femmes. Aragon a beaucoup d'hommes en lui et il a parmi ses hommes certaines femmes. Ben, il a dans sa propre chair une sensibilité féminine autant que celle d'un cavalier comme Géricault ou comme les hommes de la maison du roi. Donc, je suis étonné par la palette d'humanité charriée par les romans d'Aragon. Et donc, oui, je pense qu'il faut beaucoup d'altruisme et c'est une des leçons des romans d'Aragon, c'est d'aimer les hommes.
Et les femmes, au fil de son œuvre, Aragon semble rechercher toujours davantage l'excavation du féminin en l'homme.
Eh bien, lisez Le Conte d'Irène, c'est un écrit creusé au cœur de sa propre chair. Et sa propre chair, au cœur de cette chair, il y a en effet une femme, Irène peut-être, et peut-être Denise derrière Irène, paradoxalement. Mais Aragon écrit avec ce matériau-là, avec sa propre impensable diversité et sa cacophonie intime.
Merci beaucoup, Daniel Bougnot.